Radio Campus Bruxelles 92.1.
Et qu'on apprécie beaucoup. Bienvenue à la Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène, un bail hein, sur Radio Campus 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Donc une demi-heure pour épingler les sorties arts de la scène à Bruxelles. On ira du côté des créations, hein, la saison bat son plein, comme on dit. On ira du côté du Théâtre National avec Notre Peur de Naître, Fabrice Murgia, dernière création, une création événement, en tout cas événement belge, à Avignon cet été. On ira faire un tour du côté du Théâtre de la Vie où Elisabeth voudra s'étaler sur l'inquiétude d'être au monde de Pascal Crochet, un metteur en scène en très raffiné. On ira faire un tour du côté de la danse contemporaine, le dernier Wim van de Caybus, Talk to the Demon, et ça ne s'invente pas à l'opposé. Bernardo, lui, il fait carrément l'assaut des cieux. Et on vous parlera de quelques annonces, quelques sorties sympas ce week-end. Mais là, je me retourne, il y a toute l'équipe, il y a Nico, Sophie, Ellie, bonjour, bonsoir. Iman, Catherine et Christian. Voilà, on y va. Sophie, toi, tu as vu Notre Peur de Naître.
Notre Peur de Naître, voilà. Donc, c'est un spectacle total hein, que Fabrice Murgia a créé cet été à Avignon, comme tu l'as dit, le petit événement de la saison à venir. Et voilà, donc il fait à nouveau, comme toujours, il fait entrer le cinéma au théâtre et il crée finalement un art hybride. Quoi. Ça, c'est vraiment sa spécialité, si vous avez déjà vu les spectacles de Murgia. Donc ici, je vais parler un peu de la configuration. Donc... Le plateau est séparé du public par un quatrième mur. Donc, c'est un écran transparent encadré de néons blancs. Sur cet écran viendront se projeter pendant toute la première partie du spectacle des images vidéo captées en temps réel pendant le spectacle. Voilà, ces gros plans, ces images qui vont être projetées sont des gros plans des personnages qui nous aident un peu à comprendre leur état mental, leur fragilité et leur solitude. Parce que c'est ça le propos du spectacle. Enfin, en tout cas, c'est très difficile de ne pas l'interpréter, mais je pense que ça parle quand même principalement de ça, comme souvent d'ailleurs chez Murgia. Donc, notre peur de naître, c'est notre peur d'exister, notre peur de prendre le contrôle de nos vies, la peur de ne pas être à la hauteur, de n'être finalement que ce qu'on a réussi à être et donc d'avoir quelque part peut-être déçu nos parents qui avaient tant espéré pour nous, être moins que ce que la société attend ou exige de nous finalement. Voilà, alors cette peur, elle s'exprime aussi par l'enfermement sur soi, la difficulté d'être à l'autre et l'usage des nouvelles technologies, ici encore, pour nous distancer encore du monde réel, en fait.
Et justement, pour faire donc ces solitudes contemporaines, qui est un peu la marque de fabrique de Murgia avec son théâtre multimédia, ces gros plans caméra qui permettent d'être en intériorité, il a trouvé, on est quand même dans du théâtre, où on voit des personnages. Donc ici, on va suivre quelques personnages qui sont très typés, finalement.
Tout à fait. Donc il y a quatre personnages qui sont vraiment retranchés dans leur solitude. Six comédiens sur scène, quatre personnages et deux narratrices qui les accompagnent tout au long du spectacle. Alors, pour donner un peu une idée de ce qu'on a sur scène, voilà, donc quatre personnages, dont un jeune homme, un jeune cadre qui a perdu sa femme et qui vit un peu avec son fantôme et qui utilise son iPhone pour faire la conversation avec la petite voix, là, le Siri. Une jeune femme diplômée en communication qui ne se laisse le droit qu'exister qu'à travers son dictaphone, qui finalement devient un peu spectatrice de sa propre vie en s'écoutant raconter sa vie.
C'est terrible ça, parce qu'elle a l'angoisse, elle ne fait que s'enregistrer, donc à un moment donné...
Et elle est effectivement totalement angoissée, quoi, tout à fait. Alors voilà, un jeune adulte qui est complètement reclus chez lui. Alors là, d'après la note d'intention, c'est le modèle des hikikomori japonais. Donc ce sont des jeunes adultes qui sont coupés du monde, en fait, et qui vivent hors système, qui sont...
C'est des ados, hein, c'est un phénomène, d'ados jeunes, qui sont complètement informés, enfermés, mais par choix. Donc c'est vraiment, le monde ne m'intéresse pas, je ne veux pas ce monde-là et je m'enferme. Et ça a été quand même un des personnages phares du spectacle. Bon, on voit folle. C'est le cadran qui ouvre le spectacle avec le deuil, des systèmes de portes comme ça, très bizarre. On est déjà dans un mystère. Mais ce gamin, il a sa mère à côté.
Il a sa mère à côté parce que voilà, lui, il s'est retranché, donc il a fugué en lui-même. Mais derrière la porte, il y a sa mère. Et sa mère qui, finalement, a échoué dans son rôle, dans sa tâche, puisque c'est une immigrée italienne qui a tout donné pour lui. Elle s'est saignée. Et puis, ben, elle ne peut que constater qu'il a failli, qu'il n'a pas du tout répondu à toutes les attentes, tout ce qu'elle espérait pour son fils.
Elle est elle-même solitaire face aux problèmes que rencontre son fils. Elle n'arrive pas comment... Puisqu'il y a cette barrière, cette porte entre son fils et elle, et il n'arrive pas à construire un dialogue.
Et c'est un système efficace, Sophie. Comment les personnages se rencontrent finalement. Il y a des entrecroisements. Moi, je me souviens, on voit l'homme de 40 ans qui arrive, ouais. Et à un moment donné, il croise justement celle qui,
alors ça,
qui s'enregistre.
Ce qu'il faut dire, c'est que le spectacle est divisé en trois parties. Donc là aussi, c'est très cinématographique parce que ce sont trois parties qui vont être titrées, se projeter sur l'écran. Et la troisième partie du spectacle, en fait, c'est la nécessité d'un monde. Et dans cette troisième partie, les trois solitudes se rejoignent. Et donc, on a effectivement ce jeune adolescent qui est enfermé chez lui, qui filme tout ce qui se passe autour de lui. Donc il regarde ce monde, cette réalité à travers sa caméra pour s'en distancer. Et puis on a le cadre qui a rencontré la jeune étudiante qui cherche du boulot. Donc voilà, ces solitudes se retrouvent. Et là, on entre dans un univers un peu plus onirique, encore.
Beaucoup moins réaliste. Nurja a déjà dans Le Chagrin des Ocres, il a cet univers parce que c'est pas réaliste sur scène, c'est pas une table ou un. Est-ce qu'il y a quand même une scène culte? Est-ce que tu as trouvé qu'elle était culte?
La scène avec la mama italienne.
Voilà.
Ah oui, tout donc, à fait. Alors elle est bouleversante, hein, l'interprétation de Ariane Rousseau. Tout à fait. Oui, donc elle éclate vraiment de colère contre son fils parce qu'elle s'est toujours tue, elle a toujours tout fait pour lui. À un moment, elle explose parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne prend pas le cadeau de vie qu'elle lui a offert, en fait, finalement.
Et sur scène, c'est renforcé par ce face caméra, ce gros plan.
Immense.
Avec ses yeux pleins de larmes. Hein.
En fait, il y a deux grandes envolées, moi, je trouve, dans ce spectacle. C'est un moment quand on a une espèce d'échappée hors de scène et on va dans la rue et on suit avec la caméra le parcours d'un comédien dans la rue. Nous, on l'a vu en effet à Avignon, Sophie, toi, hier au National. Je ne sais pas ce que ça donnait, si c'est différent, si ça a été retravaillé. En tout cas, déjà là, on sent... Parce que quand on connaît le travail de Fabrice Murgia, on pourrait presque dire que la première partie ne nous étonne pas de par son système de narration.
C'est toute la pièce. Hein,
toute la pièce. Mais dès qu'il enlève, on peut dire, un des écrans qui nous distancie de ses personnages, on se dit là... Il y a une envolée qui se passe, y compris et dans le texte et dans l'intention des personnages qui nous est donnée, avec des face cam et des face au public, en fait. C'est des face au public transmis via un autre média, mais ils sont là, ils se font en direct devant nous. Et aussi une espèce de rythme qui s'envole, qui s'accélère et qui monte, en fait. Parce que parfois, je trouvais aussi que Fabrice Murgia le faisait parfois très bien en maintenant une espèce de tension toute maintenue comme ça tout au long de ses spectacles. Mais là, il y a vraiment une élévation, une explosion à un moment donné.
C'est comme un rituel, tu vois. Il y a une musique lassinante qui est tout le long. Mais en même temps, moi, je trouvais, et nous, on le trouvait à Avignon, c'est que ses textes sont parfois faibles. Ici, c'est très kaléidoscopique. Donc, il s'est inspiré de Michel Serres, il s'est inspiré des Japonais adolescents. Mais si on ne lit pas sa note d'intention, tout ça nous perd. Et on retient en fait l'essentiel de son travail, c'est les solitudes contemporaines.
Voilà.
Ça, on le retient. Mm-hmm.
Et l'esthétique impeccable.
Ouais. Mm-hmm. Ça, ici, c'est Vincent Lemaire, il s'est élargi dans son... Et puis, on voit que c'est un...
Et une aide à l'écriture de Jacques Descuvéry, ouais, également, donc son ancien professeur. Donc, c'est pas mal.
Et Sophie, dans l'ensemble?
Ah, mais on sort de là... bouleversé, et je pense qu'on doit prendre le temps de le digérer, d'en parler un petit peu avec ceux avec qui on l'a vu. Et puis, ben voilà, on ne peut que reconnaître la mise en scène ultra soignée, vraiment un très beau travail visuel.
Un voyage épique contemporain, c'est à voir au Théâtre National.
Jusqu'au 16 octobre.
C'était la première hier?
C'était la première
le
hier,
public,
oui, mardi.
Comment le public a pris?
Ben, je pense que très bien, on ne pouvait que bien le prendre, oui, oui.
Ah, oui.
Première à Bruxelles, évidemment. On rappelle, ce spectacle faisait partie des accueils belges au Inn d'Avignon. www.theatrenational.be pour toutes les infos.
Notre peur de naître, on va à un autre titre, un peu un titre frère, l'inquiétude d'être au monde.
Voilà, alors là, c'est un spectacle 100% sans technologie. On en revient au théâtre pur et dur avec une incarnation. Alors, d'autant plus que c'est en fait un spectacle qui est le produit d'un travail de fin d'année au Conservatoire de Mons. Donc, c'est vraiment le travail sur lequel la promotion de cette année, enfin de juin, a planché à l'invitation de Pascal Crochet, qui leur a proposé de travailler un texte qui est obligatoirement non théâtral. Donc là, on a déjà un premier parallèle avec Murgia. On va voir qu'il y en a d'autres. Et il est parti d'un texte qui est un essai, en fait, d'un auteur que je ne connais pas parce que je ne lis pas des essais.
Et Camille de Toledo,
qui est née dans les années 70, 76, si je ne m'abuse, et qui réfléchit évidemment sur le monde. Alors, ce n'est pas le seul auteur qui est convié à ce questionnement sur l'inquiétude. Là, le titre est tout à fait clair. Il y en a d'autres. Il y a aussi un extrait notamment de Baudrillard. Donc voilà. Et ces comédiens tout jeunes, hein, ils ont une bonne vingtaine d'années, prêts à sauter dans le vide, puisqu'ils vont devoir se lancer dans la vraie vie, ont été invités à travailler sur base d'impro et à traduire notamment corporellement ce que cette thématique de l'inquiétude et de se lancer comme ça dans la vie se faisait. Alors ça donne un spectacle qui personnellement m'a beaucoup touchée, m'a invitée à réfléchir à la fois sur sa forme et à réfléchir aussi sur le monde dans lequel on vit. Donc c'est toutes des choses que j'aime bien.
C'est un texte philosophique parce que l'inquiétude des années 70 et celle d'aujourd'hui, est-ce que ça universalise
Je ne dirais pas. Je ne sais pas si ça universaliserait, mais ce qui m'a un peu titillé, c'est qu'il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait encore un petit quelque chose qui coinçait, notamment avec ce texte. Je crois que ça coince un petit peu parce que effectivement, c'était pas un texte théâtral, ce qui est évidemment. On comprend bien que c'est un bon exercice au conservatoire. C'est un gros, gros défi pour des comédiens d'incarner un texte qui n'est pas fait pour ça. Ça donne aussi un texte avec des mots à 400 euros qu'on peut comprendre, mais je les ai oubliés.
Mais justement, ici, par exemple, chez Murgia, on a des personnages incarnés, ouais. Hein, l'inquiétude, l'anxiogène. On a l'impression qu'on va se suicider avec ces spectacles-là. Les suicidaires, on vaut mieux pas y aller.
Mais là, non, l'atmosphère n'est pas lourde. Et puis, il n'y a pas de personnification de personnages, mais vraiment, l'incarnation est dans chaque comédien. Et c'est plutôt un spectacle choral. Alors, il raconte quoi? Il raconte ce texte de Toledo. Il se pose des questions. Il raconte des petites scénettes, puisqu'ils ont travaillé en impro. Et il y a à la fois une partition musicale et je dirais surtout une partition corporelle qui est assez importante aussi puisqu'il y a tout ce ressenti de l'inquiétude et de comment ils vivent ce saut dans le vide qui les attend et ce monde-là.
Finalement, c'est une inquiétude existentielle. Ce n'est pas une inquiétude au monde où on se dit dans les années 70, les guerres, ce qui est à l'actualité,
non,
le monde extérieur n'est pas là.
Une des choses qui m'a chipoté, donc ce texte, en fait, il y avait quelque chose. C'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas dans le spectacle. Et j'ai vraiment bien réfléchi. Et effectivement, il y a ce texte volontairement pas théâtral, mais il y a aussi ce texte qui est un texte qui revient en arrière et à un moment donné, on parle des origines finalement de ce qui a changé parce que c'est la perte des repères finalement. Et bon, ce sont des choses, on en parle depuis longtemps, mais enfin tout d'un coup, on est parti un peu sur la guerre et ça m'a semblé un peu bizarre parce que pourquoi est-ce que ces gens de comédiens venaient me parler de la guerre alors que c'est pas quelque chose qu'ils ont vécu, c'est plutôt nous, on est les enfants de nos parents ont connu la guerre, mais pas leurs parents. Donc voilà, il y avait ce petit quelque chose qui coinçait là. Et en fait, les inquiétudes dont ils parlent sont tantôt quotidiennes, mais sans être dans le concret. Non plus, c'est pas passe-moi le sel, hein, on n'est pas à ce niveau-là. Ou tantôt l'espèce de remâchage comme ça de ces auteurs qui sont des essayistes et qui ont une réflexion. Et il y a un extrait par exemple de Baudrillard, c'est qu'est-ce qui se passe après l'orgie? Et ça c'est la grande question. Comme il y a d'autres questions qui sont finalement
des réponses dans la salle.
Qu'est-ce qui se passe après l'orgie? Après l'orgie, certains fument une cigarette.
Oui, voilà, par exemple. Mais bon, donc tout le monde est en train train de fumer. Mais bon, y a aussi la question des repères de Dieu. Bon, ben, Nietzsche nous avait déjà dit qu'il était mort, et en même temps, on est dans un siècle où le religieux revient à la surface. Et donc, quelque part, ça m'a laissé une petite frustration, parce que j'aurais voulu savoir un petit peu plus quel était vraiment ce point de vue de ces jeunes par rapport au monde d'aujourd'hui et ce questionnement d'aujourd'hui. Mais bon, c'est un spectacle assez court qui se suit vraiment facilement. On n'est pas dans quelque chose lourd. Mais il faut bien dire que la jeune fille qui était à côté de moi, quand c'était terminé, elle s'est dit « j'ai rien compris ». Mais bon, donc voilà.
Et au niveau de la mise en scène, parce que Crochet est très orfèvre. Hein,
oui,
il
est tout à fait. Et alors là, il a parfaitement exploité la verticalité du théâtre de la vie, par exemple, parce qu'on a ces comédiens qui grimpent littéralement au mur, qui montent au poteau, qui sont... Bon, c'est une chouette salle aussi. C'est un plateau tout à fait particulier, puisqu'on est vraiment en contre-champ et tout ça. Et alors, on a donc ces comédiens qui sont là tout simples, pieds nus, en t-shirt.
Tu l'expliques comme un théâtre de chambre, une intimité qui se partage ?
Oui, il y a quelque chose de chorale tout à fait. Et en même temps, je trouve qu'une des grandes réussites du spectacle, c'est justement d'avoir permis à des personnalités d'émerger. Ce qui fait que je n'ai aucune inquiétude par rapport au devenir de certains des comédiens, parce que y a des inégalités dans la distribution, mais il y a des beaux tempéraments qui arrivent et des personnalités auxquelles on s'accroche et qui sont vraiment des personnalités d'acteurs. Donc voilà, donc c'est un petit spectacle qui est moins lourd que le titre pourrait le laisser supposer, qui est rythmé, qui est dans le corps, et alors... Pas la moindre vidéo.
Pas la moindre vidéo pour l'inquiétude d'être au monde, à voir au Théâtre de la Vie, mise en scène Pascal Crochet, jusqu'au
11 octobre, et attention, c'est à 20h.
www.théâtredelavie.be. La conspiration. De retour dans la conspiration des planches.
Eh ben dites donc, peur, inquiétude, envol des monsieur. Catherine nous emmène voir la tuyauterie au public. Qu'est-ce que c'est que cette tuyauterie, Catherine ?
Eh ben, c'est pas du tout ce que vous pensez, en fait. C'est une pièce de Philippe Blasband. Philippe Blasband qui a écrit des scénarios comme Une liaison pornographique ou Irina Palme, où déjà l'érotisme était une toile de fond aux histoires d'amour improbables. Eh ben, il remet ça au théâtre.
Et toi aussi, Catherine, c'est toujours les spectacles érotiques.
C'est toujours pour ma pomme. Sauf que ici, moi en tout cas, c'est la première fois que je voyais Philippe Blasband dans un registre comique. Et je dois dire que j'ai personnellement pas le rire facile. Et là, j'ai passé un bon moment. J'ai en tout cas beaucoup souri avec cette pièce, Tuyauterie, donc, qui raconte la rencontre entre un plombier et une jeune femme en manque d'amour. Voilà, donc tout
ding
commence...
Ding dong, c'est le plombier.
Voilà, exactement. Le cliché du plombier qui vient réparer bien plus que la tuyauterie de la douche. La jeune femme a prétexté un problème de filtre bouché dans sa salle de bain. Elle arrive en petite nuisette et elle va littéralement sauter sur le plombier. Sauf que le plombier, il n'est pas contre, mais il a seulement une condition, c'est qu'elle lui dise pourquoi. Pourquoi toujours le plombier? Pourquoi en cette envie de sexe sans amour? Voilà, il veut juste avoir une réponse. Et finalement, il n'y aura rien de sexuel dans cette pièce. Ce sera surtout très
intellectualiser la chose
et philosophique. Pour vous dire, on parle même de Dieu, de psychologie. On parle de la beauté du vagin, ce genre de choses. Et c'est porté par un couple à la ville comme à la scène, Charlie Dupont et Tania Garbarski, qui sont plutôt impeccables dans cette pièce. Lui joue une espèce de plombier candide et elle, une jeune femme qui, de prime abord, a l'air assez sûre d'elle. Et puis finalement, on se rend compte que ça casse quelques failles.
C'est pas un peu convenu au niveau des personnages ? Tout n'est pas en ligne droite ?
Le départ est attendu, le point de départ est attendu. Mais en fait, les dialogues sont moins prévisibles. Et puis surtout, on se rend compte que c'est deux personnes qui ont l'air d'avoir rien à faire l'une avec l'autre, ont finalement beaucoup de choses en commun.
La quête de Dieu, peut-être.
Ben, surtout le manque d'amour, en fait, la solitude. Voilà, donc c'est vraiment une pièce que je recommande pour remonter le moral un petit peu.
Donc quand on saute sur un plombier, c'est parce qu'on est seul. Décidément, il y a la solitude qui traverse tout. Hein. On peut être non solitaire et sauter sur un plombier. Demain, je m'y mets.
Faut inviter le plombier d'abord.
Et au niveau de la mise en scène, Catherine, je suppose que c'est une petite salle pour ce duo.
Oui, c'est dans la salle des voûtes. C'est très sobre, il n'y a rien sur le plateau. Il y a juste deux coussins molletonnés et on est juste dans la direction d'acteur. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de vidéo.
Dites donc.
C'est très sobre, mais justement...
Demander remboursement. Hein.
Philippe Blasband, qui signe aussi signe le texte, mais aussi la mise en scène, a tout misé sur la symbiose, la complicité qu'il y a entre les deux comédiens. Et c'est plutôt réussi.
Et donc, c'est vraiment un théâtre du texte, parce que c'est un télo, rhétorique, discussion, philosophique. Ça tient. Est-ce qu'il y a des coups de théâtre? Comment on anime, justement, où ils sont face
à... Évidemment, on se dit, est-ce qu'il va se passer quelque chose, quand même? Parce que lui n'est pas contre, elle est vachement demandeuse. Et il y a un jeu très sensuel entre eux au début. Et puis, à chaque fois, et ça, c'est ce qui marche très bien en théâtre, il y a ce ne sont pas des coups de théâtre, mais une nouvelle révélation, une nouvelle question qui postpose un petit peu cette rencontre sexuelle.
Eh bien, c'est à voir au Théâtre Le Public.
Tuyauterie, et c'est prolongé jusqu'au 22 octobre, et ça se joue même... pas lundi, mais ça se joue jusqu'à mercredi en 8, donc jusqu'au 22, pardon, et c'est www.theatrelepublic.be.
Moi, je vous emmène voir deux spectacles de danse. Alors, la dernière création de Wim van de Cabus, Talk to the Demon, et Ovaria, l'assaut des cieux de Claudio Bernardo, qui fête ses 20 ans, un spectacle de 2009. Et c'est étrange parce que finalement, dans les deux, j'ai vu ça quelques jours, il y a de la bagarre. C'est toujours des mecs qui se bagarrent. Je me suis dit, nom de Dieu, est-ce que ça permet de faire de la danse au sol, hein, qui est à un moment donné une caricature de la danse contemporaine. Talk to the Demon de Wim van de Cabus, c'est assez audacieux juste parce qu'il ne prend pas de musique. Donc déjà, c'est juste du son, des petits bruits et encore de temps en temps. Van de Cabus, depuis quelque temps, a la fâcheuse manie de faire du théâtre-danse, en tout cas beaucoup de mots. Des fois, ça lui réussit, ici, pas terrible. Alors, Talk to the Demon, hein, parle avec ton démon, le démon intérieur. Et ici, c'est représenté avec une naïveté par deux enfants. Il nous présente deux enfants, un noir et un blanc, un blond, Lucky et Samuel. Et c'est le public qui doit choisir lequel des deux jouera ce soir, parce que, ils doivent en prendre un. Et donc, à main levée, on choisit. Coup de théâtre, quelques moments plus tard, un des jeunes garçons demandera au public d'éjecter un des comédiens qui est vraiment méchant, vraiment naughty. Donc, il y a ce genre de jeu où, finalement, les enfants vont et viennent et voient un monde d'adultes qui se bagarrent. La scène, elle est très sobre. Il n'y a rien. Il y a juste un petit panneau comme ça, métallique, sur le côté, où ils vont se cogner. Van de Cabus, lui, il n'hésite pas à faire cogner les comédiens. Il saute dans tous les sens. Quand ce n'est pas des briques, c'est ici un mur où il joue là-dedans. Il y a des fils, à un moment donné, où chaque comédien, il y a un beau moment chorégraphique dedans, où ils sont tous un peu pendus au niveau par la taille avec des fils blancs et ils sont en train de danser manipulés par l'enfant qui manipule des sons en live. Donc il y a cet univers-là, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, le côté bien, mal est un peu naïf. Et au niveau de la danse, finalement, ça finit par tourner en rond. Surtout, les textes en danse, c'est très difficile pour un chorégraphe de tenir un vrai propos long et qui tient la route. Ici, on parle à ton démon, montrer que l'enfant peut être plus naïf ou cruel lui aussi, parce que l'enfant a ses cruautés sur le spectacle. Ça tourne un peu court. Alors du coup, je suis partie voir L'Assaut des cieux, avec un si beau titre, hein, comment les danseurs mélangeant danse et cirque. Claudio Bernardo, qui fête ses 20 ans, il est en résidence au Théâtre Varia. On l'a nominé dans les meilleurs spectacles pour cette chorégraphie.
Il avait reçu le prix, hein, je crois, pour en danse.
Il a reçu le prix. Et c'est une œuvre, elle aussi, chorale. Il y a 5-6 garçons, que des hommes. Ils viennent en jeans et t-shirts, donc il y a, avec une lumière chaude, un peu de sable sur le côté. Donc il y a dès le début une atmosphère qui s'installe. Il y a un mât chinois parce que ça mélange les cirques. Et on voit déjà deux zikotos mettre des casques d'aviateurs et déjà grimper et essayer à l'assaut des cieux. Et tout va se passer, on pourrait presque dire en tableau, comment on cherche le dépassement de soi. Il y a Icare, il y a Prométhée, il y a un peu tout ça qui se file. Comment on va chercher le ciel et finalement comment on est dans sa propre recherche interne. Eux aussi, à un moment donné, font des chorégraphies tantôt en duo, tantôt tous ensemble. Il y a des chorégraphies de bagarre où chacun prend l'espace de l'autre. Et ce que moi, avec une musique qui enlève, et là une voix super d'une fille qui s'appelle Gabele, mais je n'ai pas son prénom, qui a une voix super en live de la musique baroque. Alors la musique baroque, ça marche à tous les coups. C'est en plus des tubes de Handel, il y a Rejoice, alors c'est tout un moment donné joyeux entre les danseurs. Il y a Ombra My Few, et alors ça se termine par une image sublime. Comme chez Wim van de Caybus, ils ont réussi leur fin. Wim van de Caybus, tous les danseurs s'amènent avec grimés comme des clowns tristes, des clowns noirs. Ils errent dans la salle et en fait, le spectacle est fini. Ils nous forcent à applaudir et on ne sait pas quand ils vont arrêter, s'ils sont là, si le spectacle continue. Et alors, on n'arrête pas de les applaudir de plus en plus et on a l'impression qu'ils sont en train de se moquer de nous, mais complètement. Ils nous regardent hagards comme des clowns. Qui est l'idiot de qui, l'arroseur arrosé ? C'est très mal à l'aise à un moment donné quand ils quittent. Ils ne viennent même pas saluer en tant qu'artistes. Donc, ils restent dans leur rôle de clown triste qui se moque un peu de nous en nous voyant applaudir. C'est très étrange. Et ici, l'assaut des cieux. Un des danseurs reçoit du sable tout le long sur une chanson de Didon Aîné, When I'm Late, et qui dit à un moment donné Remember me, remember me, c'est le tube de Purcell, et le sable dégouline comme ça sur le comédien. Et ça se termine. Donc, ils ont réussi vraiment leur deux chutes. Je dirais aller voir les spectacles parfois rien que pour la fin.
Pour la fin.
C'est deux beaux. Bon, Wim van de Caybus un peu faible, mais L'Assaut des cieux, c'est vraiment une belle poésie qui se regarde très facilement. Deux spectacles de danse, Talk des deux mondes à voir au KVS et L'Assaut des cieux à voir jusque samedi au Varia. Alors, samedi au Varia, il y a une grosse fête qui est la fanfare Don Biasco, qui est les Blues Brothers. Une soirée typiquement à l'émission, c'est des mecs qui viennent de Mons. Je les avais vus dans un concert.
C'était justement la présentation de Mons 2015.
C'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Et ça, c'est après le spectacle au théâtre Varia, après L'Assaut des cieux. Une minute pour faire quelques annonces. Alors, qui part ? La Maison du Comte, Elisabeth.
Voilà, la ouverture de saison ce vendredi avec un spectacle pour adultes à 20h. Et c'est consacré c'est un conte qui traite de l'esclavage au Brésil. Et donc, ça s'appelle Perles de liberté, Sophie Claire Failly. Et le 11 à 22h, vous avez la nuit de l'obscurité où là, on se balade et tout ça. Une ambiance différente, mais c'est scénique et souvent intéressant.
Alors, moi, un petit clin d'œil pour un café que je suis, le Saz & Jazz à la Rue Royale, qui lance son premier comédie club jeudi, et ce sera un jeune comédien qui s'appelle Talip Saritash, c'est en turc. Il joue en français, Saz & Jazz, un endroit très sympa, un peu alternatif, à la Rue Royale, du côté de Skarbek. Ainsi se termine la conspiration des planches. Bonne soirée à tous, bonne planche, il y a beaucoup chez la rentrée.
Ouais.
À bientôt. Conspiración.